Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est un composant essentiel dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques, le lithium. Et la belle ville de Cáceres, dans le sud-ouest de l'Espagne, accueille ce qui pourrait être le deuxième plus important gisement de cette terre rare pour toute l'Europe. Ça aiguise les appétits des industriels, un projet de mine est à l'étude. Dans cette région en difficulté économique, ça ouvre des perspectives inédites, mais le projet se situe près d'une zone naturelle et historique, alors la possibilité de voir s'établir ici une mine fait débat. C'est un reportage de Diane Cambon.
On la voit partout dans les rues de Cáceres, une affiche sur laquelle est dessiné un cœur vert avec écrit en noir et rouge « No a la mina ». Maribel Rojo, biologiste et professeure, en a placardé des centaines depuis qu'elle a rejoint la plateforme citoyenne « No a la mina ». Cela fait 4 ans qu'elle se bat pour que la mine de lithium ne voit pas le jour.
Nous ne voulons pas d'une mine à ciel ouvert qui se situerait à seulement 800 mètres du centre historique. Il s'agit d'extraire du carbonate de lithium. Ça demande un processus chimique extrêmement polluant. Les conséquences sur la santé des 100 000 habitants de la ville risquent d'être horribles, car la poussière en suspension contient des particules contaminées. On pourrait être en train de respirer tout cela, sans parler des explosions à la dynamite en continu.
La mine se situerait dans le seul poumon vert de Cáceres, la Sierra de la Mosca, connue sous le simple nom de la Montaña. Selon l'entreprise australienne Infinity Lithium, en charge du projet, le sous-sol regorgerait de ce minerai, devenu stratégique pour la fabrication des batteries électriques. Cayetano Polo, ancien homme politique qui a rejoint l'équipe australienne, cherche à convaincre la population.
C'est probablement la meilleure opportunité industrielle pour Cáceres de toute son histoire. Les explorations qui ont eu lieu prouvent que c'est le second gisement de lithium le plus important d'Europe. Et penser que cette étude se base sur seulement 50% de ce que l'on a pu explorer. Si on allait jusqu'au bout de la prospection, il est fort probable que ce gisement soit le premier d'Europe.
Au total, la mine de lithium pourrait couvrir 1300 hectares. Le trou central pourrait mesurer jusqu'à 500 mètres de profondeur et 700 mètres de diamètre, soit l'équivalent de 33 terrains de football. Manolo, barbe et cheveux blancs en bataille, nous fait visiter sa propriété, située au centre du terrain où devrait être creusée la mine.
Là, nous nous situons au cœur du cratère. Tout autour, ils vont devoir tout arracher, creuser, détruire ces arbres centenaires. Ici vivent des mammifères, des genettes, des mangoustes. On trouve aussi chouette royale et aigle impérial. C'est le refuge des vautours qui viennent du parc naturel de Monfragüe.
Un écosystème qui serait complètement détruit au nom de la croissance verte. L'Union européenne s'est engagée sur la voie de l'économie décarbonée et veut assurer son indépendance énergétique. Maribel Rojo s'insurge contre les promesses de cette transition dite écologique.
Nous savons qu'il y a des pressions au niveau européen. Dans les discussions sur les réseaux sociaux, on retrouve des investisseurs qui estiment que l'on peut sacrifier notre région. Pour eux, 100 000 personnes, ce n'est rien comparé à l'importance de disposer de lithium pour l'industrie automobile et pour alimenter la grande économie circulaire. Mais nous, on ne voit pas comment on peut parler de circulaire, de durable, lorsque cela suppose la destruction totale d'une montagne. La fin ne justifie pas les moyens. Quel est le prix d'une économie verte si cela entraîne la fin d'un écosystème méditerranéen avec une faune et une flore incroyables?
L'avenir économique de la ville, c'est justement l'argument mis en avant par l'entreprise minière Infinity Lithium. Cayetano Polo considère que ce projet pourra dynamiser l'emploi. C'est un véritable argument en faveur du projet, avec plus de 10% de la population locale au chômage.
Notre projet est doté de deux parties, l'une minière et l'autre industrielle. La partie minière consiste à extraire la matière première. La partie industrielle, c'est la transformation de cette roche en hydroxyde de lithium. Et cette partie industrielle, qui représente 80% de notre projet, va générer plus de 1000 emplois directs et indirects. verte. Cependant, les habitants nous demandent davantage, que viennent plus d'industries, plus d'usines. Eh bien, nous travaillons là-dessus tous les jours. Nous avons des discussions avec des fabricants du secteur pour les incorporer au projet.
Pour l'instant, la plateforme citoyenne Noa La Mina bénéficie du soutien de la municipalité qui s'oppose aussi à la mine. Dans son bureau, situé dans un palais du XVIIe siècle, en plein cœur du centre historique, Jorge Villar, conseiller municipal en charge du tourisme, explique ce choix.
On parle d'une ville qui est patrimoine de l'humanité, une ville qui axe son développement touristique sur cette combinaison magique entre les patrimoines et la nature, la gastronomie, et que cette mine, elle n'est pas possible, parce qu'on ne va pas changer les plans d'urbanisme.
Les citoyens de la plateforme Noa La Mina ont remporté une première bataille. La région d'Estrémadure a refusé le 8 avril dernier le deuxième permis d'exploration à Infinity Lithium, arguant que le plan d'occupation du sol de la ville de Cáceres ne le permettait pas. L'avenir de la Montagna dépend désormais du parti qui prendra la tête de la mairie dans 2 ans et de sa résistance au lobby pro-lithium.
Lonza et Moderna. Depuis le début de la pandémie, le groupe suisse spécialisé dans les produits chimiques est chargé de fabriquer le vaccin de Moderna pour l'Europe. Une aubaine pour le canton du Valais et la ville de Viège, où Lonza emploie près de 4000 personnes sur une population de 10 000 habitants. Mais une aubaine qui cache un lourd passif environnemental. Avant la pandémie de Covid, le nom de Lonza était surtout associé à la plus grave pollution au mercure qu'ait connue la Suisse. Jérémy Lange.
C'est en 1909 que Lonza installe son usine au bord du Rhône à Viège, mais il aura fallu attendre plus d'un siècle pour que la Suisse comprenne l'ampleur de la pollution causée par le chimiste. Jusque dans les années 70, Lonza rejette ainsi des dizaines de tonnes de mercure dans un canal, obligeant en 2014 les autorités à interdire la consommation de fruits et légumes sur les parcelles à proximité. On replonge alors dans les archives pour découvrir que l'entreprise était au courant depuis très longtemps de cette pollution. Entre 1920 et 1950, Lonza reconnaît qu'au moins 250 employés ont été intoxiqués au mercure. En 2014, nouvelle pollution, du 1,4-dioxane, un solvant toxique, est retrouvé dans les eaux souterraines. L'affaire est portée en justice, mais Lonza est finalement acquittée, pas parce qu'elle n'aurait pas pollué, mais parce que l'enquête n'a pas permis de démontrer que Lonza l'aurait fait intentionnellement. Il y a 2 ans, nouvelle affaire, cette fois il s'agit de benzidine, un produit cancérogène retrouvé là encore dans les eaux souterraines. Lonza promet de contenir la pollution. Poids lourd de l'industrie chimique, Lonza est également l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre du pays. Le protoxyde d'azote émis par l'entreprise serait responsable de 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse.
En Turquie, un groupe de villageoises des rives de la mer Noire tente de sauver sa vallée. Depuis le 21 avril, les ouvriers d'une holding qui travaille dans une carrière de pierre destinée à fournir la matière première d'un futur port logistique, les opposants refusent de quitter les lieux malgré la présence massive des forces de sécurité à Istanbul, à Nandlower.
C'est une photo qui accroche l'œil. Au premier plan, des femmes, des villageoises d'Anatolie, les cheveux sous un voile, la bouche et le nez sous un masque. Certaines sont accroupies, l'une se tient debout, appuyée sur un bâton, l'air de ne pas vouloir bouger. Au deuxième plan, une rangée de gendarmes, casqués, masqués, collés serrés, ils plantent leurs boucliers dans un amas de terre et de pierre. À l'arrière-plan, une pelleteuse, dont on ne comprend pas bien si elle creuse ou fait une pause. Cette photographie signée Serkan Ocak a été prise à İkizdere, dans la province de Rize, sur les rives de la mer Noire. Ces femmes font partie d'un groupe de villageois qui protestent contre une carrière de pierre. Une carrière au cœur d'une vallée, la vallée d'İşkencedere, censée être un site protégé. Des engins de chantier qui détruisent pour le compte d'une puissante holding turque, la Cengiz Holding. Ses dirigeants, très proches du gouvernement, remportent depuis des années tous les méga-projets qui rendent si fier le président Erdogan et qui révoltent les défenseurs de l'environnement. Surprise par la résistance des villageoises, l'entreprise a dû expliquer que c'était le gouvernement qui avait choisi l'emplacement de cette carrière de pierre, tandis que le ministre des Transports a juré que la nature ne serait pas endommagée. Les opposants n'en croient pas un mot car les dégâts sont déjà là et ont attaqué en justice le projet de carrière. Le temps que la justice se prononce, ce qui prendra sûrement des mois, les pelleteuses continuent de creuser la vallée d'Ishkenjedere.
L'alyssum mural est une mangeuse de nickel. Cette plante à fleurs jaunes qu'on trouve dans les Balkans permet d'extraire les métaux lourds des sols pollués. Longtemps, les habitants de la région l'ont arrachée. Mais depuis quelques années, ils la cultivent de nouveau en Albanie grâce à une collaboration entre les universités de Tirana et de Nancy. Et les résultats sont prometteurs. Sur un hectare, l'alyssum permet de récolter près de 100 kilos de nickel. Louis Seyé.
Une terre rouge et sèche, des champs remplis de pierres et ici ou là sur les collines qui bordent le lac d'Ohrid, les vestiges d'anciennes mines de chrome. Dans l'est de l'Albanie, à la frontière macédonienne, les paysans, comme Dalip Gadjo, un homme de 60 ans, ont bien du mal à vivre de leur culture.
Sur ce genre de terrain, on ne plante que du seigle, comme fourrage pour le bétail. La terre n'est pas intéressante, car elle est peu productive. C'est à cause du nickel qu'il y a dans le sol. On fait seulement de la culture fourragère. C'est une terre pauvre qui n'est pas adaptée à d'autres cultures agricoles.
Ces sols sur lesquels s'épuisent les paysans ne sont pas sans danger pour la santé humaine. Chercheuse à l'université agricole de Tirana, Aïda Bani les étudie depuis plus de 15 ans.
Les sols ici s'appellent le sol de serpentine parce que la couleur semble comme la couleur de serpent. Et ces sols sont des sols qui sont pauvres avec les macronutriments comme phosphore, azote et potassium. Mais sont très riches avec les métaux lourds, nickel, cobalt, chrome.
Ça, c'est une parcelle.
Le nickel, Alyssum murale, elle, l'apprécie particulièrement. Cette plante vert clair aux fleurs jaunes pousse naturellement sur ces sols aux roches toxiques, dites ultramafiques, en se nourrissant de ce métal argenté. Appelée hyperaccumulatrice, chaque plante peut stocker jusqu'à 2% de nickel dans ses tissus. C'est la phytoextraction. Grâce à une collaboration avec des chercheurs de l'université de Nancy, Aïda Bani étudie la capacité de l'Alyssum murale à dépolluer ses terres. La chercheuse cultive ainsi près de 8 hectares de cette plante dans l'est de l'Albanie.
Cette plante, il y a capacité pour extraire métal de deux types de sols. Des sols ultramafiques qui sont naturellement riches avec métaux lourds, mais aussi des sols qui sont contaminés d'activités industrielles. J'ai travaillé avec une de mes étudiants doctorants. Et nous avons construit des expériences in situ. Et cette plante a poussé très bien et nous avons de bons résultats pour dépolluer des sols contaminés par le métaux lourd.
En augmentant chaque année les rendements, la chercheuse et son équipe récoltent aujourd'hui près de 200 kg de nickel par hectare de plantes cultivées. Une fois récoltée et séchée, l'alyssum des murs est envoyée en Lorraine, où l'entreprise de chercheurs Econic se charge d'en extraire le sel et l'oxyde de nickel. Ces biominéraux, ainsi récupérés, permettent des utilisations variées dans l'industrie du luxe avec la coloration de céramique ou des verres de lunettes de soleil, mais aussi dans l'industrie automobile et les composants de batteries. Et en Albanie, l'argent tiré de la récolte des plantes permet d'améliorer un peu le quotidien des paysans.
Les paysans d'ici sont très intéressés pour cultiver les plantes pour le métaux. Il peut gagner plus l'argent, deux fois, trois fois, quatre fois plus.
Sur les bords du lac d'Ohrid, Vahit Alilari et son père ont fait le choix de délaisser le maïs ou les haricots et de tenter l'expérience. Depuis quelques années, ils ont recouvert certaines de leurs parcelles avec l'alyssum murale. Un roulement de culture qui satisfait le jeune homme de 28 ans.
Ces fleurs, cette plante qu'on cultive ici, elle capte le nickel qui est dans le sol. Et en le captant, elle permet au terrain d'être plus productif, car elle retire le nickel qui peut nuire à ce que l'on cultive normalement ici. Le seigle, la luzerne et tout ce qu'on cultive d'habitude. Notre terrain devient plus propre. Donc avec cette plante, tout le monde est gagnant. La professeure avec son expérimentation et nous, les fermiers.
Grâce à l'alyssum des murs et les autres plantes hyper-accumulatrices, les universités de Tirana et de Nancy comptent bien poursuivre leurs expérimentations de dépollution des sols. Et il y a du potentiel. Selon les chercheurs, les roches ultramafiques chargées en métaux représente près de 11% de la surface totale de l'Albanie.
Russie, le nom de Sandormok évoque les pires horreurs du XXe siècle. Sandormok, c'est le nom d'un charnier des années 30, découvert il y a à peine 25 ans dans une forêt de Carélie près de la Finlande. Les militants de l'organisation Mémorial y ont trouvé les restes de victimes de la grande terreur stalinienne, fusillées dans le plus grand secret. Bonjour Étienne Bouche.
Bonjour Juliette.
Irina Flieg a joué un rôle central dans la découverte de ce charnier. Elle lui a consacré un livre dont la traduction française vient de paraître aux éditions des Belles Lettres.
Oui, et avant d'en parler, quelques mots sur Mémorial. C'est une organisation qui a été créée durant la perestroïka et qui s'est donnée pour principal objectif de faire la lumière sur les répressions staliniennes. Dans ce livre, Irina Flieger raconte comment ses recherches ont un jour croisé celles d'un historien de Carélie, Youri Dmitriev, et comment une enquête minutieuse leur a permis de retrouver le charnier de Sandormok. Pour reconstituer cette mémoire enfouie, retrouver les lieux de répression a une importance capitale, mais ce n'est pas une tâche facile. Nicolas Wörth est président de Mémorial France. Ce grand spécialiste de la terreur stalinienne a traduit et préfacé le livre d'Irina Flieg.
Vous pouvez, dans les archives du FSB, donc la police politique, à la limite, retrouver les noms des victimes. Par contre, le lieu n'était jamais indiqué dans les archives les plus secrètes. Ça, c'était le secret du secret.
En Russie, la période stalinienne reste un immense traumatisme, mais qui reste sourd, refoulé. Et cela s'explique notamment par le fait que cette mémoire n'a pas d'incarnation physique. Ces terribles répressions restent abstraites car tout a été fait à l'époque pour qu'il n'en reste aucune trace. Les militants de Mémorial ont accompli un travail fondamental en identifiant les 6241 victimes reposant à Sandormok. Mais ils ont aussi permis à Sandormok de devenir un authentique lieu de mémoire où les familles peuvent venir se recueillir.
Et Sandormok, Étienne, c'est un lieu qui dérange aujourd'hui ?
Oui, comme l'écrit Irina Flieg, Sandormok est le lieu d'un crime de masse resté impuni. Cette vérité est embarrassante pour le pouvoir russe qui refuse toujours de nommer des responsables. La lecture de l'histoire reste soumise aux intérêts de l'État. Nicolas Wörth.
La politique récente, c'est d'une part, le pouvoir reconnaît un certain nombre de choses. Donc, musée du Goulag, ouvert en grande pompe dans un beau bâtiment à Moscou en 2017, le mur du chagrin ou de l'affliction 2017, Poutine qui se rend sur le site le charnier de Boutovo près de Moscou. Voilà, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, le pouvoir ferme les rares musées sur le goulag comme Perm 36 qui étaient gérés, ouverts et entretenus par une organisation non gouvernementale, par Mémorial. D'autre part, il exerce une pression de plus en plus forte sur Mémorial. Ce qui est clair, c'est que le pouvoir veut avoir la main sur la mémoire des répressions telle que lui veut la gérer.
À la fin des années 90, le site de Sandormok a incarné l'espoir d'une reconnaissance des crimes staliniens. Seulement, la position de l'État s'est nettement resserrée depuis. D'ailleurs, les officiels n'assistent plus aux commémorations annuelles. Comme le dit Nicolas Wörth, la Société d'histoire militaire a tenté de réécrire l'histoire de Sandormok en faisant de ses victimes des soldats soviétiques fusillés par les Finlandais. Enfin, le sort réservé à Youri Dmitriev, l'historien à l'origine de cette découverte, est tristement révélateur du contexte politique en Russie. Il s'est retrouvé accusé de pédophilie dans une affaire fabriquée pour le discréditer. Sa condamnation à 13 ans de prison a été confirmée au mois de février par la Cour de cassation de Saint-Pétersbourg.
Merci Étienne.
Bonne journée.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.